Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui.
Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent.
Allô? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas.
C'est tout ce que vous trouvez à dire.
Ouais. Allez vous faire foutre.
Ah bah la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. Ah bah la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. T'es un boss, 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 coco. Écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se bat, tout le monde subit. Alors tu bosses 15 tombes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui vénère comme un boss. Il te crache dessus, tu stresses et l'angoisse. Mais tu continues, parce qu'il faut de la caillasse. C'est le fils qui prime, et ça te fout la déprime.
Tu peux en parler,
mais jamais tu t'exprimes. Faire prendre pour un con par des gens qu'on déteste. Payé au lance-pieds, t'as plus qu'à bouffer les restes. Harcèlement moral, ambiance carcérale. Espèce de connard qui s'habille super mal. Pense à Rosetta, à ressources humaines. Chaque fois que tu te feras ken par ce putain de système.
Ah bah la hiérarchie,
pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie,
pour tous ceux qui ont les mains noires.
Ah bah la hiérarchie,
pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie,
pour tous ceux qui ont les mains noires.
Ah bah la hiérarchie,
pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie,
pour tous ceux qui ont les mains noires.
Ah bah la hiérarchie,
pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie,
pour tous ceux qui ont les mains noires. Mais qui tais-toi pour me parler comme ça. T'es placé par le papa et tu te crois plus fort que moi. Mais qui tais-toi pour me stresser comme ça. Mais qu'est-ce qui te donne le droit de te croire au-dessus de moi. Un supérieur, parce que t'es mon supérieur. Espèce de bâtard, je vais te péter le postérieur. Quand tu feras le bouffon dans ta caisse de fonction. Fais gaffe, j'aurais peut-être scié la direction.
Tu sais, de toute façon, la société fonctionne comme ça hein. Excuse-moi, mais c'est genre t'enfonces des partout vert.
Moi je les enfoncerai jusqu'à ce que j'en crève. Et comme Goldman, j'irai au bout de mes rêves. Et même si la chanson est bonne, elle sert à rien. Moi que ça te fera du bien de gueuler ce refrain.
Ah bah la hiérarchie. La hiérarchie. Ah bah la hiérarchie. La hiérarchie. Ah bah la hiérarchie.
Pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie.
Pour tous ceux qui ont les mains noires.
Ah bah la hiérarchie.
Pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie.
Pour tous ceux qui ont les mains noires.
Ah bah la hiérarchie.
Pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie.
Pour tous ceux qui ont les mains noires.
Ah bah la hiérarchie.
Pour tous les mecs qui sont dans les toits.
La hiérarchie.
Pour tous ceux qui ont les mains noires.
Sur FMR, la radio Fomora 89.1, et c'est l'émission Ne te trompe pas d'ennemi, qui jamais en vacances, hein, on est toujours là, hein, qui est à l'antenne. Alors, émission doublement exceptionnelle, puisque déjà un, notre père fondateur, rédacteur en chef, chef et tout.
Notre lumière.
Notre lumière. Voilà, il n'est pas là, il est en vacances, comme d'habitude, tout le temps en vacances. Et puis, surtout, émission spéciale, parce qu'on a des invités. Ils étaient déjà venus dans ce studio, mais on en a parlé dans toutes les émissions depuis. Mais entre-temps, eh bien, malheureusement, ils ont croisé la police israélienne. Ils ont donc été incarcérés, emprisonnés. C'est donc les gens de la mission Bienvenue en Palestine, d'Europalestine Toulouse, et qui ont enfin pu revenir. Donc là, déjà, on est heureux, parce qu'on s'est fait un peu de soucis. On est heureux de les voir dans notre studio et qui seront là pour nous expliquer ce qui leur est arrivé, comment c'était, et puis qu'est-ce qu'ils pensent faire maintenant, continuer la lutte pour la Palestine. Donc voilà, c'est une émission spéciale, on fera ça avec nos invités. Donc bonjour les invités, donc présentez-vous.
Alors, bonjour, moi c'est Kader, voilà, j'ai fait partie de la mission Bienvenue en Palestine, qui devait se dérouler du 8 au 16, et voilà.
Oui, moi c'est Claudine, donc j'ai fait partie aussi de cette fameuse mission et je suis arrivée à Tel Aviv. Et j'ai fait un séjour à Tel Aviv.
Dans les prisons.
Dans les prisons, voilà.
Bonjour, moi c'est Fatia et je fais également partie de la mission Bienvenue en Palestine et on nous a donc empêchés de passer en Palestine.
Donc on parlera en détail de ça. Alors on n'a pas dit, on n'a pas fait les annonces syndicales. Donc vous nous écoutez sur les ondes 89.1, mais surtout vous pouvez nous écouter en direct, en streaming sur le site de la radio. De
radio-fmr.net.
Voilà. Et puis après, bien sûr, vous pouvez aller sur notre merveilleux site nttpe.free.fr hein, pour podcaster l'émission, pour voir les liens. Et entre autres, vous avez dessus les liens du site Europalestine et puis du site Bienvenue en Palestine. Et sur le site Bienvenue en Palestine, on l'avait dit la semaine dernière, mais il y a plein de vidéos justement de témoignages dans les aéroports en France, mais aussi en Belgique. Des Belges et puis plein d'informations complémentaires, donc vous pouvez aller dessus. Et puis vous pouvez bien sûr nous appeler au téléphone au 05 61 580 deux fois. J'ai tout dit, chef.
Je crois. Ouais.
Voilà.
Donc, confiance.
Avant de discuter avec nos invités, un peu de musique. Est-ce qu'on a une programmation spéciale? Est-ce que c'est quoi la musique
Sur la liberté.
Ça tombe bien. Hein.
Voilà.
On est synchro.
Donc on commence avec Iri Révolté, la fausse liberté.
Et c'est parti. C'est parti.
Oh putain, tu vois le mec là-bas qui pleure sur le pont?
Ah oui, je le connais.
Mais qu'est-ce qu'il y a avec lui?
Tu sais, il est venu d'Afrique ici en Europe pour gagner un peu d'argent.
Et alors?
Mais il n'a pas réussi. Attends, je te raconte.
Caché sur un ballon, il se sortit comme un oiseau.
Échappé des eaux malheurs avec un espoir dans son cœur.
Il pleure, je pleure aussi, là, ma chance l'a suivi.
Déjà un truc de ma sélectrine, maintenant il nous oublie.
Caché sur un bateau, il se sent libre comme un oiseau.
Échappé des sauts malheurs avec un espoir dans son cœur.
Il pleure, je pleure aussi, là, ma chance l'a suivi.
Déjà un truc de ma sélectrine, maintenant il nous oublie.
Grandi dans une grande misère. Survie-tu sans père ni mère.
Sein Alltag zu bestehen und quer in den Tag. Mais wie fühlen sie sicherlich, wenn man tagtäglich Kinderarbeit verrichten muss, was anderes gibt's eh nicht. Seine Gesundheit lässt sie bald im Stich. Da die Unterstützung, lächerlich.
C'est la galère. Il travaille 16 heures par jour, pas de vie et pas d'amour. N'a pas de joie, n'a pas de plaisir, ne connaît pas le mot loisir. L'État ne le soutient pas, il proclame de nouvelles lois qui protègent ses comptes de flics, ça ne tient pas de logique.
Eh ben t'as pas besoin de chercher de la logique, c'est pas magique.
Ah ouais?
C'est la tactique économique qui fabrique ce système dans lequel le flic panique. Je t'explique la tragique et j'indique que j'en conduis. Qui travaille jamais pour toucher le SMIC.
Oh arrête d'exagérer.
Eh tu vois pas la misère en Afrique?
Alors ce que lui semble être la seule solution, c'est de parier bien qu'ils t'ont quitté le mal, cherche le bon. Il se dégage, quitte son boulot.
Dis salut à Samifa.
Va au port, cherche un bateau.
En espérant qu'il emmènera
dans un pays où il y aura plus d'espoir
dans sa vie.
Où il touchera assez de gens rares à envoyer à sa famille. Mais le pire c'est qu'il réalisera jamais son désir. Je vais te le dire, son avenir va être pire. Caché sur un bateau, il se sent libre comme un oiseau.
Échappé des eaux malheurs avec un espoir dans son cœur.
Il pleure, je pleure aussi, la malchance l'a suivi.
Déjà un truc de ma sélectrine, maintenant il nous oublie.
Caché sur un bateau, il se sent libre comme un oiseau.
Échappé des eaux malheurs avec un espoir dans son cœur.
Il pleure, je pleure aussi, la malchance l'a suivi.
Déjà un truc de ma sélectrine, maintenant il nous oublie.
Oi, listen, original black steady, look at my feet, and I go, hey,
yeah. Elle est toute seule avec sa mère qui travaille pas. Elle va s'occuper des enfants et même de la MIFA. Son père est mort, il est crevé du sida. Alors elle doit se débrouiller pour emporter du genre. Ses petits frères et sœurs, elle doit fournir avec la bouffe. Elle travaille jour et nuit, ne me prenez pas pour un ouf. Les conditions sont si mauvaises qu'il faillit qu'elle s'étouffe. À cause de l'air pollué, elle en a marre. Avec un groupe idée que la suite dit jeune fille. Mais avec moi, tu le regrettes pas, je te le promis. Je t'emmènerai en Europe ou aux États-Unis. Là-bas, tu touches assez d'argent pour nourrir ta famille.
Ce type ne les connaît pas, c'est pas un mec de bain. Commence à lui parler bien, il semble un peu humain. Écoute bien, la tragique commence ici parce qu'elle y croit. Elle parle de tout l'argent et tout la joie, tu veux savoir pourquoi? C'est parce qu'elle n'a pas d'avenir et son histoire est froide. Je voulais te voir dans cette situation là, c'est pas la première fois qu'elle perd la navigation, l'intention, attention. Car rien ne commence jamais la discussion sans une bonne raison. Tu comprends ça?
Putain.
Tout le monde s'en fout là car le gouvernement cache toutes les informations, c'est pour ça. Mais pourtant tu crois que c'est très seul mec à non. Parce qu'il n'a pas envie de perdre trop de temps mais elle demande pas. Monsieur, je vous en prie, quel est le prix, je paierai, c'est promis. Mais ce con, à qu'est-ce qu'il pense, attends, je te dis. Il rit, prend sa main, touche la caresse, là, très doucement. Elle a déjà compris, mais doit oublier ses sentiments. Au lendemain, il n'est plus là, elle est découragée. Pense à son malheur, pas au portant d'avoir un billet. Et c'est fini, elle laisse tout tomber, elle est en train de pleurer. Crois-moi, c'est pas le dernier malheur qui va se passer.
Crois-moi, c'est pas le dernier malheur qui va se passer.
T'as compris?
Ah oui, j'ai compris, c'est la galère.
Cassé sur un bateau, elle se sent libre comme un oiseau.
Échappé de son
suis.
Le chat truc invasif, King Bab, nous elle nous oublie.
Caché sur un bagou, elle se sent libre comme un oiseau.
Échappé de son malheur avec un espoir dans son cœur, elle pleure.
Je pleure aussi, la malchance la suit.
Le chat truc invasif, King Bab, nous elle nous oublie.
Bien, nous revoici, vous êtes bien sur FMR et donc eh bien, on est avec nos amis d'Europalestine donc pour cette mission qui débutait le 8 juillet et qui s'est arrêtée plus vite que prévu puisque c'était du 8 au 16. Donc bah, voilà, on va vous laisser expliquer un peu comment ça s'est passé puisque bah, vous deviez partir pour 15 jours dans les territoires occupés en Cisjordanie et bah, donc pour Kader ça s'est même pas parti, hein, je crois que c'est resté bloqué à Paris.
Nickel à Paris.
Voilà. Et puis par contre vous avez réussi à partir mais vous avez été bloqué à Tel Aviv.
En fait on est arrivé donc le vendredi 8 juillet, comme prévu. Nous venions par un vol à l'Italia, nous venions de Rome. Donc nous arrivions dans l'après-midi et bon, nous venions donc dans le cadre de la mission Bienvenue en Palestine. Et il était bien clair depuis longtemps que nous venions dans un but tout à fait pacifique. Nous venions rendre visite à l'invitation d'associations palestiniennes. Nous venions rendre visite aux Palestiniens, partager leurs activités, comme par, leurs travaux aussi, comme la plantation d'oliviers. On venait aussi participer à des activités culturelles avec l'association du théâtre Al-Rouad. Donc vraiment, nous venions en visiteurs pacifiques et amicaux. Et nous étions attendus dès le 8 juillet à Bethléem.
Voilà, mais vous n'avez pas réussi à aller jusqu'à Bethléem.
Voilà, alors je vais un petit peu vous raconter comment s'est passée l'arrestation pour nous, par exemple, à l'aéroport, pour que vous voyez un petit peu comment ça s'est passé. Donc nous savions que ça serait très difficile de passer le contrôle à Tel Aviv, parce que bon, dès qu'on annonce qu'on va en Palestine, c'est très compliqué. Et nous avions décidé de ne pas cacher notre lieu de destination.
Les Palestiniens nous l'avaient demandé également.
Oui, voilà. Donc on arrive, nous, à l'aéroport, et dès qu'on arrive, on sent qu'il y a une tension extrême, des flics partout, des policiers dans toutes sortes d'uniformes qui s'agitent par groupes, qui épient les arrivants. Donc on s'est dit, on est attendu. Ils attendent l'armée de terroristes, sans doute. Et donc, moi, personnellement, avec mon mari, donc j'arrive dans le grand hall, déjà plein de policiers, et dans un groupe, déjà, je vois un groupe de détenus entourés par les policiers. Nous, on s'approche du contrôle des passeports, nos papiers en règle, nos billets en règle. La policière là, du contrôle regarde nos passeports, demande une question assez bizarre, prénom du père, du grand-père, bon, d'accord. Et puis, où nous allons? Alors moi, je dis à Bethléem. Et hop, j'ai même pas eu le temps de voir ce qui se passait. Elle regarde sur l'écran, des policiers arrivent, prennent nos passeports et nous amènent directement rejoindre les détenus dans un coin du hall. Voilà comment ça s'est passé, une espèce de kidnapping, peut-on dire.
En tout cas, d'arrestation illégale.
Illégale, bien sûr. Pas du tout notifié. Et puis, pendant toute... Donc, nous sommes restés environ 5 heures dans les salles de police de l'aéroport, police aérienne, baladés d'une salle à l'autre, d'une chaise à l'autre, d'un étage à l'autre. Oui, et puis sans aucune explication, on ne nous a jamais expliqué pourquoi on nous avait détenus et confisqué nos passeports. Donc, ils étaient. Alors, on note une désorganisation totale parmi les policiers, ça passait, ça hurlait, des ordres, des contre-ordres, en hébreu ou en anglais, jamais d'interprète français, évidemment. Donc, on attend et on se dit, ils sont assez désorganisés quand même.
Et pour toi, Fatia, est-ce que c'était là, en même temps ou
Oui, on est arrivés en même temps. Et nous, en fait, on était partis par groupe de trois. Donc moi, j'étais avec deux de mes amis. Et quand on a vu justement... Parce que le but était de dire qu'on allait en Palestine pour voir les Palestiniens. Et c'était surtout les Palestiniens qui nous l'avaient demandé, en fait. Parce que les personnes qui se rendaient là-bas auparavant étaient obligées de dire qu'elles allaient ailleurs pour pouvoir passer. Sinon, elles ne passaient pas, au risque de 2 ans d'emprisonnement si elles allaient dans les territoires occupés. Donc on nous a demandé de dire qu'on allait en Palestine voir les Palestiniens, et moi lorsque j'ai vu que donc on était tous arrêtés, on en avait parlé avec Claudine, et donc moi j'ai dit que j'allais en Israël faire du tourisme technoparty, voilà. Donc et apparemment ça au départ ils y ont cru, donc voilà, il m'a dit toi il y aura pas de problème, tu vas passer avec tes amis, et par la suite à mon avis ils ont eu une liste, et c'est là qu'ils m'ont dit bon mais tu vas avec les autres. Donc on est parti avec les autres, on nous a baladé de salle en salle sans jamais rien nous dire, sans jamais rien nous expliquer. On est passé également par l'agent policière qui nous a demandé les passeports, le nom du père et du grand-père. Donc voilà. Et ensuite, donc quand on nous a pris dans une salle, sachant qu'on était tout le temps filmés, ils avaient toujours une vidéo pour nous filmer, nous prendre en photo du début jusqu'à la fin. Et donc ensuite, ils nous ont transférés du terminal où on était à un autre terminal bien éloigné, isolé, complètement isolé, le terminal 3. Certains sont partis dans les cars, d'autres ont été transportés dans des camions de criminels, de terroristes, grillagés, blindés, voilà. Les personnes qui ont été transportées dans ces camions sont prioritairement les personnes d'origine maghrébine.
Hein. Oui, c'est ce qu'on vous avait dit, c'est qu'ils avaient fait un petit filtrage à la tête du client.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, de type ethnique.
Voilà, oui. Déjà moi quand j'étais arrivée dans la salle, justement, on m'a dit d'attendre pour la vérification des passeports, parce qu'on nous a mis dans une salle, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que des gens bronzés, je leur ai dit écoutez, je suis surprise, pourquoi il y a autant de gens bronzés autour de moi. On m'a dit oh non, ne dites pas ça, pourquoi vous dites ça, nanana. Je dis oui, voilà, j'aimerais savoir pourquoi je suis arrêtée, voilà, je suis une touriste, voilà, bref. Donc ensuite on a voulu me transporter dans ce camion grillagé de terroristes, et je n'ai pas voulu y monter, je leur ai dit écoutez, je ne monte pas dans ce camion, je veux un car, je n'ai rien fait, je suis innocente, je vois pas pourquoi je monterais dans un camion, voilà. Donc il y avait une quinzaine de personnes autour de moi qui m'ont pointé du doigt, monte dans ce camion. Je dis que non, Joël était présent, donc Joël était témoin, et il y avait d'autres personnes qui étaient déjà dans le camion qui étaient rentrées,
des Arabes,
oui, toutes arabes d'origine, enfin des Françaises d'origine maghrébine. Et donc, on m'a forcé à y rentrer, on m'a poussé violemment, j'ai eu des hématomes sur les mains, on m'a forcé, on m'a claqué, si vous voulez, contre le fourgon. Et donc, je suis rentrée, et on nous a transféré dans ce terminal 3. Voilà. Une fois arrivé dans ce terminal, checking, enfin, je veux dire, fouille, on nous a regardé encore les sacs, on nous a fouillé, interrogatoire, toujours les mêmes questions. Quel est le vol, votre vol, vous venez d'où? C'était une désorganisation totale. Franchement, on les surestime. Hein. Pour moi, on les surestime vraiment. Parce qu'ils étaient totalement désorganisés, sachant qu'il n'y avait pas uniquement des policiers, il y avait des soldats, des agents de l'immigration, il y avait des policiers, il y avait toutes sortes de personnes qui avaient été recrutées pour cet événement, en fait, notre arrivée. Voilà, donc interrogatoire. Moi, j'ai filmé un peu. J'ai posé des questions à quelques gens qui étaient là, séquestrés tout comme moi depuis déjà 6 heures. Donc, et juste après, donc on m'appelle, on me demande encore une fois quel est votre vol? Vous êtes venu avec quel vol? J'aurais dit donc vol à l'Italia. Il m'a dit ok, tu peux partir de l'autre côté en anglais, rejoins les autres. Donc, je rejoins les autres. Et c'est là qu'un des managers, un homme donc de la police là-bas ou de la police de l'immigration, donc m'a pris le bras violemment et m'a dit toi you go to in jail. Je lui dis il m'a pris le bras violemment comme ça, il m'a dit toi tu vas en prison. Et je lui dis pourquoi? Je lui dis non, je veux pas aller en prison, et cette personne-là était venue déjà me voir au préalable, disons peut-être une heure avant, il m'avait pris le bras également, il m'avait dit tu viens avec moi en anglais, you come with me. Et je lui dis où? Et il m'a dit à l'hôtel. Voilà, donc sachant qu'il m'avait repris le bras, disons une heure après, pour me dire tu vas en prison, donc moi je me suis tout de suite, j'ai fait le lien, donc je lui ai dit non, je pars pas, donc je suis partie vers les autres, où les autres se trouvaient, et c'est là qu'il est venu vers moi, il a couru vers moi, il m'a sauté dessus, et donc moi je me débattais forcément, donc tout le monde est venu, enfin il y en a qui disent une quinzaine, d'autres une trentaine de personnes, voilà, d'après les témoignages, parce que moi j'ai pas pu voir toutes les personnes qui étaient moi, donc tirage de cheveux, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait de tout, hein. Donc on m'a tiré les cheveux, on m'a frappé, on m'a fait des croche-pieds pour que je puisse tomber et que voilà. Et donc je suis ressortie. Après, on m'a mis par terre. J'ai eu plusieurs genoux sur mon dos, en fait. Et donc, pour me couper la respiration, donc j'arrivais plus à respirer. J'ai cru vraiment que j'allais mourir à ce moment-là. J'ai crié au secours. Enfin, toutes les personnes qui étaient dans la salle étaient traumatisées. Elles se sont mises à pleurer. Il y en a qui sont tombées dans les pommes. Et donc, voilà. Et il y a deux personnes qui sont venues m'aider, dont une personne qui s'était déjà fait frapper auparavant. Mohamed, justement, un Belge, et un autre, Djibril, de Paris. Et donc, ils étaient venus m'aider pour essayer de me... Voilà, quand ils ont vu tout ce monde sur moi, donc ils ont dit, c'est pas possible, ils sont venus, et eux aussi se sont fait tabasser par la suite, voilà, ils se sont retrouvés dans les fourgons. Donc moi, ils m'ont pris comme si j'étais la plus grande terroriste, avec les chaînes, les menottes, et voilà, ils m'ont jeté dans le fourgon, ils m'ont transporté, même pas en deux minutes, j'étais déjà dehors, on m'a porté, on voit qu'ils sont très, très habitués, hein, aux opérations de ce genre.
On avait des vidéos, ça, et pour taper sur les gens, ils savent faire, hein, c'est...
Voilà.
Et puis, c'est là, oui, c'était dans cette salle. Il faut noter aussi qu'on n'était quand même qu'une trentaine de
non, pas une trentaine.
On n'était même pas, c'est un petit groupe. Ouais. Et dans cette salle, quand même, cette grande salle, il y avait à peu près 200 flics avec des... Alors, il y avait des...
Il n'y avait pas que des flics, hein. Il y avait des policiers, oui, des soldats.
Il y avait plein d'uniformes. Il devait y avoir des militaires, parce qu'à ce moment-là, dès que les militaires sont rentrés, la tension est devenue extrêmement forte. On l'a senti tout de suite, ils sont devenus beaucoup plus durs. Et bon, moi, c'est vrai que j'ai pas vu le tabassage de Fatia, parce qu'on nous a fouillé comme il faut. On nous a tout confisqué aussi dans une salle à côté. Donc, à un certain moment, on n'avait plus rien. Sac à dos, ils nous ont dit, vous mettez... Ils nous ont pas dit qu'on allait en prison. Ils nous ont dit, posez vos sacs à dos là, mettez toutes vos affaires dedans, enlevez vos ceintures, vos cartes de crédit, tout. Mais on lui a dit, mais pourquoi ? Non, rien, ça va, continuer. Et après, c'est là aussi que je rentre dans la grande salle, où Fatia venait d'être tabassée, mais j'avais rien vu. Et puis après, par exemple, moi, on m'a appelé aussi pour descendre, donc je descends, et je vois qu'il y a un fourgon cellulaire qui nous attend, qui m'attend là. Je rentre, et je vois Fatia dans le fourgon, toute seule, en pleurs, enchaînée, menottée, les chaînes aux pieds. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où va-t-on ?
Et après, vous avez été transféré, donc...
Voilà, on a attendu quand même deux heures sur un parking désert, le moteur au ralenti qui tournait, mais on savait plus du tout ce qui nous arrivait. Là, c'était vraiment le noir total. Et la nuit était tombée, en plus, et c'est au moment... Je pense que c'était fait exprès que la nuit tombe pour nous transporter. Donc, ils ont tous mis tous les mondes dans des fourgons cellulaires, et nous avons débarqué donc à la prison, directo.
Et à Tel Aviv, donc.
À côté, Ramla.
Oui, à côté, Ramla. Parce qu'on a eu des informations comme quoi il y a une partie qui était donc à côté de Tel Aviv et d'autres qui ont été emmenées dans le désert du Negev.
À Beersheba, voilà.
Donc dans d'autres... Et vous, c'était plutôt...
Nous, on était dans la prison de Givon. C'était bel et bien une prison, puisque la consul nous a dit, la consul de France... qu'on a vu au deuxième jour de notre arrivée en prison.
Alors, là aussi, par rapport aux autorités françaises, que sur les informations qu'on a eues, il apparaît qu'il vaut mieux être belge que français.
Ah, certainement.
En tout cas, au niveau des autorités consulaires. Ouais,
c'est ce que je demandais aux prisonnières. Je leur demandais, vous êtes belge ou française ? Ils me disaient, vous avez bien de la chance.
Oui, parce que, on a été convoqués, en fait, par groupe de 15, pour rencontrer enfin la consule générale de France à Tel Aviv. Alors, on s'installe, on attendait quand même un soutien moral ou matériel de la part de cette personne, puisque c'est son métier,
c'est son travail.
La première chose qu'elle nous a dite, c'est qu'elle était très fatiguée de s'occuper de nous.
C'est deux jours qu'elle n'avait pas dormi.
Voilà, la pauvre. Alors, on s'est dit, et puis que, allez, il ne fallait pas trop qu'on s'énerve, parce que sinon... une indifférence totale.
Par rapport à ici, puisque vous ne saviez pas, mais ici, pour ceux qui ont appelé les autorités françaises, la réponse a été qu'il fallait écrire.
Ah bon ?
Oui, voilà.
Écrire.
voilà, donc il fallait écrire, et que là, après le courrier, il verrait, alors que vous veniez d'être arrêté, puis après il y avait le week-end. Donc écrire, voilà. Donc il fallait écrire.
Écrire, voilà.
Oui, téléphoner, ça servait à rien.
Pour l'instant, nous, on était en prison et on attendait.
Mais il faut écrire.
Oui, voilà.
C'est pas urgent.
Non. Sachant qu'elle nous avait dit que, elle travaillait justement sur notre arrivée depuis deux jours. Donc certainement qu'elle a dû voir tout ce qui s'est passé, ou elle a dû entendre, parce qu'il y avait un représentant de l'ambassade française. du consulat français qui était sur place, elle nous l'avait bien dit, et donc elle a vu dû voir tout ce qui nous est arrivé sans rien faire.
Oui, rien faire.
Un, de deux, moi quand je lui ai raconté mon histoire, puisque j'étais encore choquée après ce qui m'est arrivé quand même, donc je lui raconte mon histoire, et elle me dit, mais vous l'avez peut-être, vous avez, parce que peut-être vous avez mis une résistance, ou en gros elle me faisait comprendre que je l'avais cherché, quoi. Donc voilà, et j'ai vu aucune compassion, et d'ailleurs je lui dis, parce qu'on l'a revu, moi je l'ai revu 3 jours avant de partir, ou 2 jours avant de partir, je crois, et je l'ai revu et je lui dis, écoutez, moi j'étais choquée par vos paroles lorsqu'on vous a vu le premier jour, j'ai vu aucune compassion, j'ai vu aucune vraiment sympathie dans vos yeux. Je lui dis, moi j'ai raconté mon histoire à une gardienne israélienne, elle s'est mise à pleurer, et je lui dis, et moi je vous raconte votre histoire, vous me dites en gros c'est votre faute. Je lui dis, franchement, j'étais vraiment choquée par votre attitude, quoi. Et donc elle est partie, elle a dit, je savais qu'on allait déformer ce que je dirais sur Paris.
Par contre,
et donc après, donc c'était une prison.
Oui, tout à fait.
Alors, plusieurs en cellules. Il y en a certains qui vont dire qu'on était en centre de rétention.
Non, c'était une prison.
Un centre de rétention, c'est juste un autre nom pour une prison.
Oui, non, mais là c'était vraiment une prison, même parce qu'il y avait des gens, il y avait d'autres prisonniers qui étaient là, d'autres femmes, d'ailleurs des gens, très jeunes, pour moi je les ai vus très jeunes, j'ai même vu...
Et vous n'avez pas pu avoir de contact
Si, ils évitaient, moi j'ai dit bonjour à une Palestinienne qui était un peu handicapée, qui était là-bas sur place.
C'était difficile d'avoir
Mais c'était ils voulaient pas qu'on puisse avoir un contact avec les autres. D'accord. En fait.
Ils étaient dans un autre secteur de la prison.
Enfin, c'était juste en face quand même, mais bon, c'était fermé. C'était fermé, donc
il ne pouvait
pas y accéder.
Que la consule quand même, quand on lui a bien dit que nous étions en prison sans savoir encore pourquoi, au bout de 2 jours, on ne savait toujours pas pourquoi, on ne nous avait pas donné officiellement la raison de notre arrestation.
On ne l'a jamais donné.
Elle a dit, écoutez, les raisons politiques, ça ne me regarde pas. Israël est un pays souverain chez lui. Donc, de l'air de dire, voilà, vous n'aviez qu'à pas venir, vous le saviez. Oui. Je ne rentre pas dans les considérations politiques. Mon travail, c'est... Alors, les questions matérielles, c'est-à-dire rencontre avec un avocat et puis communication avec vos familles. Or, même ce travail, elle ne l'a pas fait parce qu'il y a plein de gens...
Parce que les familles, on leur a dit qu'il fallait écrire.
Voilà, donc, déjà.
Même déjà.
Et nous, on n'a pas pu.
Et il y en a qui n'ont pas vu d'avocat, ni de médecin, ni la consule. Hein.
Pendant 4 jours, y a beaucoup qui n'ont pas vu d'avocat. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu communiquer avec leur famille parce que leur mobile ne marchait pas. Donc, on n'a rien fait. Donc, ils sont en infraction totale par rapport au droit international.
Même au niveau de la loi de la prison et aussi au niveau de la loi israélienne. Quoi.
Et du droit international.
Et du droit international, bien entendu. Mais bon.
On va passer un peu de musique. Et puis après, Kader nous expliquera aussi comment ça, pour ceux qui n'ont pas pu passer, comment ça s'est passé. Et surtout, je pense que lui, il n'a pas vu la police israélienne, mais il a vu la police française, puisque la police française est intervenue aussi. C'est quoi, Maestro, la musique?
Manu Chao avec Libertad.
Ah bah, alors ça tombe bien.
Trasto ciò in madrugo
revoici. Donc toi, Kader, tu partais de Paris, donc tu t'es retrouvé, t'as pas pu aller plus loin que Paris, hein, tu t'es retrouvé bloqué dans l'aéroport, puisque on rappelle un peu comment ça s'est passé, les autorités israéliennes ont envoyé des listes de noms aux compagnies aériennes, donc compagnies aériennes qui, c'est marrant, elles sont pas israéliennes, mais elles obéissent à Israël, hein, puisque c'est ça, et il faut dire, juste avant que tu nous expliques comment ça s'est passé sur place, que ces compagnies n'ont pas respecté la libre circulation des gens en Europe, puisqu'il y avait des correspondances qui se faisaient sur le territoire européen, et que donc c'est maintenant Israël qui décide les gens qui peuvent voyager en Europe. Hein. Donc je sais que ça a été un peu chaud et violent donc à l'aéroport de Roissy, parce que c'était à Roissy. Hein.
C'est ça. Donc nous, on était de Toulouse, on était 4 à partir. Donc à la base, on faisait partie du groupe de Toulouse qui devait partir par Rome. Donc chance ou malchance, donc on n'a pas fait partie du groupe qui a réussi à partir jusqu'à Tel Aviv. Donc on est arrivé jeudi soir à l'aéroport de Charles de Gaulle, donc on a dormi là-bas. On était les premiers, notre vol Toulouse-Francfort, Francfort-Tel Aviv partait à 6h30 du matin, donc embarquement 2h avant. Donc à 4h30, on s'est présenté au guichet pour présenter nos billets. Et à partir de ce moment-là, les hôtesses d'accueil nous ont dit qu'on faisait partie d'une liste, qu'on ne pouvait pas embarquer.
C'était quelle compagnie ? C'est intéressant.
Lufthansa.
Voilà, c'est intéressant de donner les noms des compagnies.
Il faut savoir qu'à Paris, on était le plus gros contingent à partir. On devait être à peu près, gros maximum, 300 Français sur 3 vols différents. Alitalia, Lufthansa.
Et Malév, c'est ça ?
Non, Malév, c'était la veille. C'était
d'accord,
jeudi.
C'est la veille.
Et Air France, je crois qu'il y avait d'accord, un vol Air France.
Aussi, il y avait Air France.
350 Français.
C'est ça. On arrive à 4h30, donc on essaye de passer, ils nous disent que c'est pas possible, donc ils commencent à avoir un remue-ménage, donc ils commencent à nous dire qu'on fait partie d'une liste de 342 personnes, les autorités israéliennes ne nous acceptent pas dans leur sol. Donc ils nous ont traités apparemment de terroristes, hooligans.
Les termes du vice-ministre
israélien.
Israélien.
C'est ça. Bon, j'aime bien le football, mais après, pour dire qu'on est hooligan, c'était un grand mot. Donc, sachant qu'en France, on est ni terroriste, ni hooligan, même pas connu dans les services de police. Eux, ils ont la capacité d'Israël d'être capable de nous détecter en tant que terroristes. Ouais. Quand même.
Il faut dire que ça a même choqué, ces propos-là ont même choqué un député de Kadima. Donc Kadima, c'est quand même pas un parti d'extrême gauche là-bas, hein, c'est l'ancien parti d'Olmert. Hein, voilà. Et ce député-là a fait qui est un ancien militaire, en plus, hein, a fait des déclarations en disant qu'il comprenait même pas comment l'État d'Israël pouvait traiter ces gens de hooligans. Donc même à l'intérieur, il y a des gens qui comprennent pas. Et je dirais là, on n'est pas avec des grands gauchistes. Hein, Kadima, c'est
des manifestations à Tel Aviv aussi, oui. Importantes.
Donc, après, ce qu'on a fait, c'est que on a demandé des raisons, des explications. Donc, la seule explication qu'avaient les compagnies, c'était qu'on ne pouvait pas embarquer. Donc, Lufthansa nous a remis un papier. On a retardé quelques vols, on a essayé d'avoir des explications. C'était un petit peu la pagaille à l'aéroport. Donc, les autorités de police, dans un premier temps, ils sont arrivés pour essayer de gérer la sécurité et tout ce qui en suit. Ensuite, après des heures de négociation, Lufthansa a décidé de nous remettre un papier afin qu'on puisse se faire rembourser.
Parce qu'il a même des choses.
Voilà, un papier justifiant qu'on devait bien prendre le vol de telle heure à telle heure pour Tel Aviv. Donc ensuite, on a appelé les collègues qui étaient dans notre terminal à l'Italia. Eux se sont fait rembourser dans la foulée. À l'Italia, Air France ont remboursé de suite. Et nous, le groupe de Lufthansa, on était une centaine, on ne s'est pas fait rembourser. Donc à partir de ce moment-là, on est resté, on a campé à l'aéroport jusqu'à 21h. Et à 21h, le show des CRS a
voilà, commencé. Et puis en plus, je pense qu'il y a aussi des militants qui ont été appelés, qui sont venus en soutien. En tout cas, il y avait des appels sur le net pour venir soutenir. Et donc après, c'est les CRS français qui sont...
Après, on a eu, je croyais que c'était le 14 juillet, une démonstration de marche des CRS, un quadrillage exceptionnel... C'était élégant à voir, c'était magnifique. J'ai eu la chance qu'à ce moment précis, je suis parti acheter un petit morceau à manger. Donc j'ai pu filmer les collègues qu'on trouvait encerclés, bien encerclés. Et les CRS, quoi, c'est comme un échiquier, c'est les pions, quoi. On peut pas discuter avec eux, eux ils sont là pour taper. Donc au moment où ils ont eu le feu vert pour nous faire dégager de l'aéroport, parce qu'il y avait des bus de police qui nous attendaient pour nous amener à gare du Nord, il me semble, avec les bagages et évacuer l'aéroport. Là, on a eu un spectacle où ils ont commencé à gazer
à l'intérieur de l'aéroport.
À l'intérieur, ouais. en plein fouet. Des jeunes filles, des enfants, des personnes âgées. Nous, il n'y avait pas de violence, on était juste assis. Bon, moi, j'étais à l'extérieur, j'étais en train de filmer, ils étaient assis en train de chanter des chansons.
Ah, c'est violent pour les CRS. Oui.
Donc, et là, ils se sont fait à cœur joie de taper, des insultes. Là, ils se sont régalés, quoi. Là, ils étaient vraiment dans leur secteur, quoi. Et voilà, donc ensuite le soir, moi je suis resté 3 jours à Paris. Le soir, on est tous rentrés, on a eu la chance d'être hébergés, nous. Le lendemain, on s'est donné rendez-vous à 10h, notamment pour essayer d'avoir le remboursement par Lufthansa immédiatement, vu que les autres compagnies l'avaient fait. Donc Lufthansa ne nous a toujours pas remboursé. Donc on arrive à 10h à l'aéroport. À 10h, il y avait toute une armada de CRS en train d'attendre. Et encore mieux, il y avait la Ligue juive qui nous attendait. Donc en fait, ils ont fait passer des messages, ils voulaient faire un peu de fighting, quoi. Ils étaient là avec un grand drapeau israélien, prêts à en découdre avec nous. Donc dès qu'on a vu ça, on s'est un petit peu dispersé. On s'est donné rendez-vous l'après-midi à l'hôtel de ville pour continuer notre mouvement. On a voulu éviter tout ce qui est bagarre et tout ce qui en suit, parce que c'était vraiment pas le but et il n'y avait pas d'intérêt à faire ça, quoi. Donc arrivé à l'hôtel de ville en début d'après-midi, on a pu faire 10 mètres, voire 20 mètres maximum de marche. Et les CRS sont arrivés à une allure quadrillée. Et là, ils ont été radicales, quoi. Frappés, bombes lacrymogènes, attrapés, nous ont mis dans des bus. 3 bus qui sont venus nous ramasser et dans 3 commissariats différents de Paris. Donc voilà, quoi. Ensuite, ouais. Le soir, on a été...
On rappelle que sur l'hôtel de ville de Paris, ils avaient mis, je ne sais pas s'il y est toujours, mais en tout cas, ils avaient mis la tête du soldat Chalit.
Il y est toujours.
Voilà. Donc, toujours. Mais c'est juste pour les otages, là, c'est juste, voilà. C'est simplement pour montrer
juste un petit détail pour revenir notamment sur la liste. Ce qui est fort et qui est extraordinaire, c'est que quand même, sur cette liste de 342 personnes, ils ont réussi à avoir 341 personnes exactes. Une personne qui n'avait rien à voir avec la mission, qui partait faire un concours de danse, a été inculpé dans le groupe. Ensuite, sur la liste, il y avait les noms, prénoms, date de naissance, numéro de passeport pour certains. Il y avait même les pseudos Facebook pour d'autres. Donc, rien d'officiel, un pseudo Facebook, quoi.
Ils sont très forts le piratage informatique.
Voilà, est-ce qu'il y a eu du piratage? Est-ce qu'il y a eu des aides de certaines...
En tout cas, il y a eu collaboration des compagnies aériennes.
Ah, ça, c'est sûr.
Oui.
Et ouais. Certainement du ministère des Affaires étrangères, parce que, bon, qui a fermé les yeux, qui a dit aux compagnies aériennes, allez-y, faites ce que vous voulez, nous, on n'a rien vu. Mm. Donc, il y a vraiment une collusion entre le gouvernement français et puis le ministère de l'Intérieur israélien, c'est sûr.
Sachant que par rapport aux personnes qui ont pu arriver à Tel Aviv, tous les avions ont été retardés. Donc ces retards n'étaient pas vains en fait. Ces retards ça a été fait exprès pour permettre aux Israéliens de gérer l'arrivée enfin des. Donc à chaque fois, nous, on ne s'était pas aperçu au départ, mais on a eu un retard d'une heure passée. Et donc d'après ce que j'ai pu entendre par rapport aux autres personnes qui étaient arrivées à Tel Aviv, ils ont tous eu des retards, ils ont retardé les avions pour pouvoir gérer les gens, même s'ils ont été dépassés.
Ils ont été vraiment dépassés. Apparemment, ils avaient pris des mesures très tardivement.
Et donc, pour nous arrêter. Donc vous avez été libéré le jeudi.
Oui.
Mais vous avez appris quand votre...
Non, on n'a pas été libéré le jeudi. Nous, c'est-à-dire, ils voulaient nous libérer en fonction des vols qu'on avait pris. Donc nous, on devait reprendre un vol à l'Italia. Donc apparemment, notre consul de France ne s'est pas beaucoup bougé quand même. Donc il a fallu attendre jusqu'au mardi pour pouvoir prendre un vol à l'Italia. Et donc ça s'est fait vraiment... nous, on a attendu donc pendant 4 jours, 4 nuits, avec la discipline de la prison, c'est-à-dire fermé à double tour dans des cellules, 5 jours, mais 4 nuits, fermé à double tour dans des cellules fréquemment, 2 sorties dans le couloir, une sortie ou deux dans une petite cour à l'extérieur, et puis le reste du temps, enfermé.
Et du chantage aussi, voilà. Dans la prison, en fait. Du chantage, si vous nettoyez pas, vous n'aurez pas d'appel. Voilà. Si vous nettoyez pas, vous pourrez pas sortir. Mmh. Voilà. You are a woman, you clean. C'était leur phrase.
Et un jour, jour, un soir, on n'a pas voulu nettoyer le couloir. Donc, privé de sortie, voilà, tout simplement. Le chantage perpétuel. Leur phrase, c'était aux gardiennes, qui par ailleurs, elles étaient, je sais pas, il y en avait plus ou moins des sympas, quoi. Mais c'était, vous nous respectez et on vous respecte. C'était du donnant-donnant. Vous êtes gentils et nous aussi, on est gentils avec vous. C'était
sans arrêt. Quand vous êtes partis, est-ce qu'il restait beaucoup encore de gens incarcérés? Est-ce que vous avez pu le savoir? Puisque donc vendredi dernier, il restait 4 personnes une Australienne, une Allemande, je crois.
Et des Britanniques. En fait, voilà. Nous, les premiers partis, ça a été les Belges, le lundi. Après, il y a eu des Français. Et puis, nous, le mardi, ça a été le vol à l'Italia. Et le soir, ça a été les Anglaises qui restaient. Il restait des Anglaises. Et il y avait deux Américaines aussi. Et l'Allemande est partie le soir. Mais je crois qu'elle a été expulsée de force.
D'accord. Et est-ce que vous avez eu... parce qu'il faut savoir que donc il y a deux prisonniers, des prisonnières qui ont fait un procès et qui en fait ont gagné devant la justice israélienne, puisque la justice israélienne a dit que leur arrestation, leur détention était illégale. Oui. Donc ils ont. Est-ce que ça vous avez été au courant au retour ou sur place vous avez des informations?
Par l'avocat, je crois. On a eu des informations au niveau sachant qu'il y a eu un procès qui avait été fait et que ce procès faisait jurisprudence par rapport aux personnes, aux participants de cette mission, que l'État d'Israël était dans l'illégalité par rapport à ce qu'il s'avait fait et que voilà, qu'il nous donnait raison, quoi.
Oui, mais
c'est tout ce qu'on a entendu.
Est-ce que vous savez aussi, puisqu'il y a eu une... Alors, il y en a quand même qui ont réussi à passer, quelques-uns. Il y a eu une manifestation dans les territoires occupés avec des Palestiniens, mais certains aussi qui avaient réussi à passer. Ce député de Kadima, ancien militaire, qui a dit que c'était... Il y a eu dans des journaux des éditoriaux qui disaient qu'Israël faisait n'importe quoi.
Voilà. Il devenait fou.
Est-ce que quand vous étiez emprisonné là-bas, est-ce que vous entendiez des choses là-dessus? Ou est-ce qu'il y avait un blockout total et
on est au courant de rien. Les Belges, eux, ils ont pu avoir, par rapport à leur avocat ou à leur consul, ils ont eu des journaux leur disant qu'en Belgique, ils avaient extrêmement médiatisé l'événement et qu'ils passaient dans tous les journaux. Ils passaient dans les journaux également, dans les journaux télévisés, qu'ils ouvraient les journaux télévisés avec
justement, la différence de traitement entre les Belges et les Français.
Hallucinante.
Puisque en fait, comme vous le disiez, la médiatisation est partie de la Belgique et après... en plus, comme ça a été un peu loin quand même dans les aéroports, c'est des départs en vacances. Il y a quand même eu sur les médias français, ils en ont parlé assez peu, mais ils en ont parlé. Est-ce que vous pensez donc que cette différence est due au gouvernement, c'est-à-dire
à la différence
d'attitude du gouvernement français et du gouvernement belge, parce qu'il faut savoir qu'un consul c'est un fonctionnaire qui obéit à des ordres.
Nous à l'aéroport à Paris avec Xavier Bertrand qui est passé rapidement pour prendre un vol, il devait être pressé de partir en vacances, je crois.
En plus, il n'avait pas un avion rien que pour lui. Il était obligé de prendre un avion avec les autres. Ça m'énerve. D'habitude, ils ont leur avion rien que pour eux. Et là, obligé de voyager avec le peuple.
Ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement, les Belges n'ont pas de gouvernement actuellement. Ils ont été très réactifs. Ils ont été très.
Ils n'ont pas de gouvernement, mais en fait, il paraît que ça. On l'a dit dans l'émission la dernière fois. Ça n'a jamais mieux marché en Belgique depuis qu'ils n'ont pas de gouvernement. C'était une leçon à.
Moi, j'ai vu une vidéo justement où le Sénat, où il y avait plusieurs députés au Sénat belge, où ils expliquaient, ils demandaient des explications par rapport à Israël. Il y a eu un journal où je sais qu'il y a eu un article. Ou en première page où il disait la Belgique veut des explications donc par rapport aux otages justement.
Il faut rappeler que sur la cause israélienne la Belgique a toujours été un peu quand même je dirais en avance sur la France. Quand même le pays qui avait inculpé l'ancien Premier ministre Sharon pour crime parce qu'avec la loi universelle c'est vrai que la politique belge vis-à-vis d'Israël est différente. C'est vrai que c'est pas un pays colonial moins colonial que
nous. On a une histoire coloniale quand même qu'on traîne vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis des pays du Maghreb, donc il y a ça d'une part et puis il y a aussi le rôle des
nous quand là-bas qu'on tape sur les Arabes c'est un peu normal puisque déjà en France ils le font donc c'est un truc, ça va pas les choquer. La police française le fait régulièrement tous les jours. Donc
moi, je veux quand même insister sur le point que les personnes d'origine maghrébine ont été celles qui ont été le plus maltraitées. Les personnes maghrébines se sont fait tabasser. Moi, ce que j'ai vu, toutes les personnes, il y a juste une Britannique qui s'est fait molester, mais bon, elle avait émis de la résistance. Enfin, je veux dire, elle a voulu passer avec sa valise.
Il faut rappeler. Mais
sinon, après le reste, c'était que des femmes voilées.
Que donc l'État d'Israël a une politique raciale. Quand je dis racial, c'est ça, c'est qu'il y a une différence. Mmh. Il faut rappeler que les députés arabes au Parlement, à la Knesset, hein, n'ont pas les mêmes toilettes que les députés juifs. C'est comme la ségrégation, hein, ou les noirs aux États-Unis, voilà, c'est ça. Il faut rappeler aussi que même des juifs, mais noirs de peau, les falachas, c'est ça, qui sont juifs, hein, donc israéliens, ne sont pas traités à égalité avec les blancs.
Il y a eu même une marche raciste récemment, il y a un mois ou deux, justement, où il lynchait tous les bronzés.
Donc c'est pas quelque chose c'est bien de le dire et de montrer aussi que ça se passe, qu'on veut toujours nous présenter Israël. On va mettre un peu de musique, et puis après on essaiera de parler de et maintenant, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça vous a pas trop fait peur, est-ce que vous voulez continuer,
insister sur un autre point, sur le fait qu'il y a eu quand même un soutien au niveau israélien. Il y a eu, quand nous on a été séquestrés, qu'on était dans l'aéroport, il y a eu une manifestation qui a été faite de la part des personnes qui devaient nous accueillir justement et nous transférer à Bethléem par car. Donc il y a eu des manifestations et ces personnes ont été réprimées, elles se sont fait tabasser également et emprisonnées. Donc des Israéliens, Israéliens juifs.
Mais ça, on a
tout
voilà.
Vu. Il faut dire aussi que...
Entre autres, on sait qu'il y a le mouvement anarchiste, il y a un mouvement anarchiste assez important.
Les anarchistes contre le mur.
Qui sont des Israéliens juifs et qui se battent.
Il y en a beaucoup qui se battent.
Mais
voilà,
qui ont une énorme répression. Il faut bien dire qu'eux aussi subissent une énorme répression.
Et puis des procès qui leur coûtent très cher. Et puis ceux qui ont pu rencontrer un avocat qui était palestinien en Israël leur a dit que malgré tout ce qu'on disait, c'était une réussite,
on en parlera un peu des répercussions et puis de ce qui va se passer. Donc c'est parti, Mike Fonse, hein.
Radio Get the Machine.
Come on!
standing on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement.
Et bien, vous êtes toujours sur FMR, la radio FMRE, et sur l'émission Ne te trompe pas d'ennemis avec nos invités d'Europalestine Toulouse. Donc, maintenant, on va parler un peu de l'avenir, déjà de la répercussion, parce que bon, c'est d'une certaine manière un échec parce que vous n'avez pas pu rencontrer les Palestiniens et aller dans les territoires occupés comme vous le vouliez, mais d'un autre côté aussi c'est on peut dire pour Israël une victoire un peu à la Pyrrhus puisque tout le monde en a parlé chez eux, ça a déclenché des problèmes et puis ça a montré que le blocus il n'est pas simplement sur Gaza, il est sur la Cisjordanie et que finalement il y a des endroits où on ne peut pas aller librement malgré ce que les autorités israéliennes disent.
Toute la Palestine en l'occurrence.
C'est bien ce que disait l'avocat. Il disait c'est une action quand même politique importante. Parce que c'est la première fois d'abord qu'on venait, qu'il y avait des internationaux qui viennent en disant ouvertement qu'ils veulent entrer en Palestine. Et on a vu clairement que le blocus, il n'est pas seulement à Gaza, qu'il est vraiment en Cisjordanie, puisque c'est impossible de rentrer si on dit franchement qu'on veut y aller. Il faut toujours se cacher, inventer des histoires. Et ce qui est aussi finalement quand même un pas en avant, c'est que l'opinion israélienne a commencé à bouger, a commencé à dire mais non, ce gouvernement, il va trop loin, il franchit des limites qu'on ne peut pas franchir.
Oui, entre autres, il y avait, je crois que, je sais pas si c'est, il y avait une petite fille de 9 ans ou 10 ans qui allait...
Oui, qui a été arrêtée
voilà,
en France.
Et donc, voilà, mais ils ont dit, et donc il l'a émis terroriste, et en Israël, il y a carrément des gens qui ont dit on ne peut pas traiter une fille de terroriste.
Tout à fait.
C'était deux gamines.
C'était bien clair qu'on était pacifistes. Ils n'ont pu trouver aucune preuve comme quoi on était des terroristes dangereux. Ils ont vu qu'on était vraiment des gens, tout ce qu'il y a
lambda,
tout ce qu'il y a de plus quelconque, désarmés.
D'ailleurs, il y a une avocate belge aussi qui a été incarcérée en même temps que nous.
Oui.
Et sachant que pour les Belges, il y a eu 3 adolescentes aussi qui ont été incarcérées. Elles ont été renvoyées rapidement en Belgique, mais elles ont été quand même incarcérées. Des mineurs.
Oui.
Et est-ce que vous avez eu depuis des contacts avec vos correspondants en Palestine, donc des associations palestiniennes, et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent,
ils étaient très contents, ils ont dit que c'était, ils ont remercié quand même, nous ont remercié quand même d'avoir tenté cette expérience, sachant que même si on n'est pas rentré en Palestine, on a prouvé que la Palestine était complètement enclavée, que c'est impossible d'y rentrer, et les gens qui pensaient que on peut rentrer en Cisjordanie. Ce n'est pas vrai. Pas vrai. C'est impossible. Le blocus, il est sur toute la Palestine. Il ne faut pas non plus distinguer Gaza et la Cisjordanie. C'est le même pays, c'est le même problème. Et les deux, la Palestine ne pourra être libre que si les deux
entités. Plus que les deux entités, puisque si on regarde ce que estime aujourd'hui Israël, la Cisjordanie, elle a été quand même mangée par rapport au territoire de 67. Donc c'est même au-delà.
Les colons qui sont installés plus, dans ces territoires occupés.
En plus, la Cisjordanie, c'est un trou, c'est comme un gruyère.
Voilà.
C'est morcelé c'est parsemé de colonies. Donc ça va être vraiment un problème pour faire un État palestinien dans cette
situation. Et ça a permis aussi de prouver aussi la politique israélienne aussi envers de simples touristes qui venaient voir des Palestiniens.
Voilà.
Donc une démocratie n'aurait jamais agi de la sorte. Oui. Donc qu'on me dise c'est le seul pays démocratique du Moyen-Orient, ça me fait bien rire.
Oui.
Après tout ce que j'ai subi là-bas. Oui. Voilà.
Et donc, alors maintenant, déjà, qu'est-ce qui se profile déjà déjà vous au niveau personnel, est-ce que vous allez continuer votre engagement au sein de la lutte pour la Palestine,
plus que jamais,
oui. et surtout comment est-ce que vous voyez les choses, qu'est-ce que vous pensez faire, est-ce que à terme certains ont déjà pensé à refaire
repartir,
une opération de ce
Il faut, c'est-à-dire que l'action maintenant ça va être sur plusieurs plans. Sur le plan politique, c'est-à-dire il faut qu'on interpelle de plus en plus nos élus pour leur dire voilà ce qui se passe en Palestine, voilà de quoi nous avons été victimes, nous qui n'étions que des internationaux. Alors imaginez ce que ça peut être pour les Palestiniens. Nous sommes en visiteur, nous nous faisons kidnapper, séquestrer. Que faites-vous par rapport à ça, vous les élus? Que faites-vous? Ce sont vos concitoyens qui sont violentés, qui sont bafoués dans leurs droits. Donc, comment réagissez-vous? Est-ce que vous allez encore laisser longtemps faire ce qu'il veut? Et puis ensuite, il y a le plan médiatique. On a vu quand même que les journaux qui ne nous sont pas du tout favorables ont été quand même obligés de parler de ce qui se passait, bien malgré eux souvent, mais ils ont été obligés de le dire. Et les gens qui doutaient encore de la vraie nature d'Israël, ils ont quand même vu ce que c'est qu'Israël. C'est un État, le terroriste, quoi. Enfin, un État qui ne respecte pas le droit,
terroriste.
Le droit international, c'est tout. Et donc ensuite, il y a le plan juridique, parce que nous pensons qu'il y a quand même des graves violations du droit, non seulement de la part des compagnies aériennes qui n'ont pas fait leur travail en bloquant et en bafouant le droit de la libre circulation des citoyens, qui fait partie des droits fondamentaux, la libre circulation des citoyens, et aussi en Israël, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment emprisonnement, il y a eu séquestration, puisque nous n'avons toujours aucun papier justifiant
notre expulsion ni notre arrestation. Rien. On nous a jamais rien dit du début jusqu'à la fin.
Donc au niveau action juridique, il y a donc des procès qui vont être intentés.
On est en train de
compagnie aérienne et à l'État d'Israël.
On est en train d'y travailler. Il y a des avocats qui s'y attellent et qui vont y travailler parce que c'est quand même
c'est grave.
Et nous-mêmes d'ailleurs, nous ne pouvons pas accepter que ça soit passé là pour perte et profit. Non, c'est pas possible.
Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore choquées, traumatisées par ce qu'elles ont
subi. Et ce n'est pas possible que nous laissions passer ce genre de criminel, en fait.
De terrorisme.
Nous, sur Paris, on a reçu un papier officiel d'Israël écrit en anglais nous refusant de rentrer dans leur territoire. Donc voilà, un papier écrit en anglais. On comprend rien, avec un tampon officiel, comme quoi on n'est pas accepté en Israël. Quoi.
Déjà, au moins le traduire. Quoi.
Après, moi, personnellement, sur ce que je pense, c'est que déjà, on va pas dire que j'étais un grand militant de la Palestine. On m'a parlé du projet, un projet alléchant. J'ai signé de suite. On m'a dit, on part en Palestine. Je suis plus pour des actions vraiment concrètes. J'avais déjà fait de l'humanitaire au Burkina Faso, un peu partout. Donc on m'a dit, voilà, partir en Palestine, un projet culturel, une aventure humaine extraordinaire à vivre. Donc c'est pas passé pour moi. Personnellement, je l'ai encore à travers la gorge. Il y avait une grosse aventure humaine, un plan sur tous les plans culturels, sur les plans enrichissants. Je voulais sortir un petit peu de mon cocon français, en France, dans ma petite ville rose à Toulouse, tranquille, avec mon petit boulot de fonctionnaire. Je voulais vraiment aller vivre quelque chose d'extraordinaire. Et franchement, ça...
Et stopper l'isolation aussi de ce peuple palestinien, parce que c'est ce qu'ils étaient demandeurs de ça. En fait.
Exactement. Et pendant 10 jours, je suis resté à Toulouse, et ça m'a tué plus qu'autre chose. Et je pense qu'on a raté... Après, je tiens quand même à féliciter les organisateurs de ce projet. Ça a été difficile, gérer 600 personnes, essayer de se retrouver, l'idée était excellente, il y avait vraiment un travail de fait. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont été à l'initiative de ce projet. Je tiens aussi à louer la bravoure à toutes ces personnes qui sont battues, qui ont pris des coups, qui sont montées dans les bus de CRS à Paris, eux qui sont accrochés à Tel Aviv, qui ont été martyrisés. J'avais eu la chance d'avoir Fatia pendant que moi j'étais à Paris, elle en train de pleurer au téléphone, en train de se faire tabasser. J'ai assisté impuissamment de Paris à travers mon téléphone aux larmes de Fatia. Donc toutes ces personnes, ces 600 personnes, tout ce qui a été derrière nous, tout ce que nous ont soutenu, franchement, si un jour l'État palestinien est reconnu ouvertement dans le monde, je pourrais dire peut-être que j'ai mis ma pierre, mon petit gravier pour y contribuer. Quoi.
Donc justement, pour continuer à mettre des petits graviers sur Toulouse, bon là, il y a les vacances, est-ce que déjà, comme on en avait parlé hein, lors de votre première venue, hein, vous faisiez aussi des choses directement sur Toulouse, est-ce que vous voyez ce que vous allez mettre en place à la rentrée? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se profilent?
Bien, on continue de toute façon de militer pour la campagne pour le boycott.
Aujourd'hui, oui. Plus que jamais.
Oui, parce que bon, c'est vraiment nécessaire de plus en plus, et c'est la seule chose qui pourra aussi pousser Israël à respecter le droit. On a déjà vu d'ailleurs les conséquences du boycott par rapport à Gresco.
Oui, alors Gresco, quand vous n'étiez pas là, on m'a donné, il y avait quand même une bonne nouvelle. Hein, c'est que finalement Gresco est dans des difficultés financières tellement énormes qu'ils sont à la limite de la faillite, donc ça c'était une bonne nouvelle. Hein.
Très bonne nouvelle. Ouais,
on s'est dit, si Gresco fait faillite, ça sera une bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle.
On en avait dit un mot, de toute façon sur Gresco, c'est Montpellier, hein, le port de Sète, mais Montpellier, donc on continuera bien sûr à donner des nouvelles.
Et aussi à informer beaucoup pour les pharmacies, parce qu'on y tient beaucoup. Teva,
oui, voilà.
Ces génériques Teva, les génériques Teva israéliens sont en train de s'emparer du marché, des génériques. Mmh. On l'a constaté, par exemple, dans des pharmacies, les génériques, maintenant, il n'y a plus que Teva dans certaines pharmacies. Et donc, on veut vraiment mettre en garde tous les gens qui sont conscients, quand même, de dire n'achetez pas Teva. Parce qu'avec l'argent, c'est une entreprise extrêmement riche, avec l'argent que vous donnez en achetant ces génériques, vous êtes en train de
tuer les patients.
De les aider à acheter, à s'armer.
Vous êtes complice, hein?
D'être complice, enfin complice un petit peu.
Si, complice dans le fait de
les aider, à tuer et à réprimer et à maltraiter les Palestiniens. Donc ouais. Teva, c'est vraiment à boycotter.
Yeah. Et à l'approche du Ramadan, moi j'étais on est sur Toulouse, hein, j'étais dans un quartier Arnaud Bernard, donc récemment, j'étais choquée, j'ai vu des dates israéliennes après ce que j'ai subi.
Donc, on rappelle que normalement, donc en France, il y a obligation pour les magasins de donner l'origine des produits qu'ils vendent. Alors, quand c'est des produits emballés, c'est écrit sur le produit. Mmh. Hein.
Ouais.
Voilà. Mais quand c'est des fruits et légumes, c'est pas écrit sur le produit. Mais par contre, l'origine doit être marquée. Regardez. Et puis,
le code barre, s'il commence par 720.
Oui, voilà, mais maintenant, on n'en tient pas compte. Ils essaient de le camoufler. Faire très attention aux fraudes. Parce qu'ils vont marquer, par exemple, Pérou. Et si vous soulevez un petit peu l'emballage, le carton, vous voyez que c'est Israël. Donc ça, c'est vraiment très malhonnête et c'est totalement illégal. Mmh. Donc se battre aussi quotidiennement dans ce boycott et exiger qu'on marque clairement la provenance
des produits.
Des produits. Ouais.
Donc de toute façon, sur toutes les compagnies que vous pouvez boycotter, vous pouvez aller sur le site de BDS, hein, du boycott.
Oui. Les investissements sont
voilà. Et donc là, il y a toutes les listes des compagnies et des produits.
Oui. Parce
que des fois, on voit des marques, mais on ne sait pas obligatoirement.
Non,
voilà. Donc là, par contre, vous avez toutes les marques. Voilà. On rappelle aussi le site d'Europalestine et Bienvenue en Palestine, parce que je pense qu'ils continuent
sur
le site. Hein. Donc qui sont, bien sûr, vous allez sur ntte.free.fr et vous avez les liens direct. Bien sûr, à la rentrée, si vous avez des actions sur Toulouse, on vous accueillera encore et puis on en fera surtout la promotion. Écoutez, on vous remercie, on le redit, content de vous voir ici, être revenu en un seul morceau quand même. Nous on vous dit à la semaine prochaine, c'est ça, chef. Voilà, le grand maître, notre lumière, sera revenu.
Normalement, oui.
Normalement, hein, à moins qu'il soit perdu, Arcachon, mais bon. Hein. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.
Et donc, moi, je tenais à vous remercier, vous, personnellement, et la radio aussi, parce qu'au niveau des médias, on n'est pas trop non plus... on n'est pas sollicité, quoi. Enfin, je veux dire... vous faites partie des radios qui ont voulu et qui ont suivi cette mission les actions pour la Palestine. Et je tiens à vous remercier énormément de ce que vous faites tous les jours au niveau de la radio et de nous vous avoir reçus ici.
Nous vous remercions.
Le président appréciera. Et puis, de toute façon, pour l'émission, expression, hein, le nom le dit, hein, ne te trompe pas d'ennemis. Donc nous, on ne se trompe pas d'ennemis. voilà. Et bien, la semaine prochaine.
Oui.
Et puis, c'est parti, on finit en musique, hein,
Maestro. Oui, avec du Jimi Hendrix.
Et bien, c'est parti, Cap Jimmy. Juste avant, nous avons oublié d'annoncer les Ahuris qui sont là. Voilà, alors c'est un fait, parce que Foy, il est venu tout seul, donc c'est l'Ahuri tout seul pour suivre, donc ne quittez pas les ondes de éphémère avec exceptionnellement l'Ahuri.